comme un privilège et une grâce. Est-ce que je peux prier pour toi ? Oui. Merci Jésus parce que tu es là et tu es au milieu de nous. Merci parce que tu demeures parmi nous. Merci parce que c'est toi qui fais le travail, tu bâtis ton église, et tu te sers de nous tels que nous sommes. Merci parce que tu donnes des dons à chacun et merci pour ce que tu as donné à Jean. Nous le bénissons en ton nom et je veux le fortifier ce matin. Le fortifier dans ta grâce. Merci Saint-Esprit. Parce que tu parles au cœur, Jésus. Merci parce que tu parles jusque dans les profondeurs. Tu ne t'arrêtes pas à l'extérieur, mais tu vas jusqu'en profondeur, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire ce matin, en ton nom, Jésus. Amen.
Amen. Merci. Anne-Marie et moi, nous apprécions beaucoup d'être avec vous. De bénir Dieu et puis la fraternité, la foi, beaucoup d'affection que nous recevons, que nous donnons aussi. Je propose de lire dans le chapitre 22 de Matthieu. La parabole appelée parabole des noces. Si vous voulez, on lit le texte. Et puis après, on va déjà faire une première remarque. Et ensuite, rentrer dans ce que Jésus a dit. Et que son esprit a fait écrire. C'est capital. C'est vraiment capital quand je lis la Bible d'être conscient que je suis en train de lire quelque chose que le Saint-Esprit a fait écrire. Amen. Enfin, le jeu, il est impersonnel là. Chacun. Quand nous lisons la Bible, c'est quelque chose qui sort de la bouche de Dieu, que des hommes de Dieu ont prononcé. En l'occurrence, là, c'est Jésus lui-même, et que le Saint-Esprit a fait écrire. Voilà, Matthieu 22, verset 1. Jésus leur parla de nouveau en parabole. Pardon, est-ce que vous voulez bien qu'on remonte au chapitre 21, le verset 42? Donc, dans les derniers versets du chapitre 21, 42. Voilà. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est une merveille à nos yeux. Et maintenant, 22, verset 1. Jésus leur parla de nouveau en parabole et leur dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, négligeant l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Compagnon, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme fut muselé, littéralement. Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » J'ai lu le verset 42 du chapitre 21, parce que c'est le contexte global dans lequel Jésus dit cette parabole. Rejeter la pierre angulaire, rejeter le Christ ou le recevoir. C'est le contexte global. Alors, il y a une autre parabole qui ressemble énormément à celle-ci. C'est dans Luc 14. Pour ne pas être trop long, je ne propose pas de le lire maintenant ensemble, mais si vous voulez le lire à la maison, ce sera utile. Et donc, celle de Luc 14 s'appelle, on l'appelle la parabole des invités. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, la parabole des invités est facile à lire. Elle est facile. L'inviteur ne fait pas périr ceux qui refusent. Il n'envoie pas son armée brûler leur ville. Et à la fin, il ne dit pas « jetez-le dans les ténèbres ». C'est la parabole des invités. Elle met, si vous voulez, Jésus, cette parabole en différentes, avec différentes connotation, Jésus l'a dite sans doute très très souvent, puisqu'il passait des heures et des heures en tout lieu à prêcher et il redisait les choses. Donc il l'a dite très souvent de diverses manières, mais l'Esprit de Dieu a voulu que soit écrit deux des orientations dans lesquelles Jésus l'a dite. La parabole des invités a un message. L'importance d'aller partout, d'insister, d'inviter, et pour l'inviter, l'importance de savoir quitter ses bœufs ou son champ si besoin et répondre à l'invitation. D'accord? Dans la parabole des invités, c'est un homme qui prépare un festin et qui envoie inviter des gens. Ici, la parabole des noces, il y a bien sûr, dedans, le même message, l'importance d'entendre l'invitation, l'importance d'y répondre. Et pour les serviteurs, si le maître dit « allez inviter ceci », ben ils vont inviter ceci. Et puis si le maître dit « allez le long des haies et tout ce que vous trouvez, et c'est même marqué, il dit même « contraignez-les d'entrer », verset qui a servi de prétexte à beaucoup d'injustices et d'abus, mais bon, voilà. Donc, si vous voulez, dans celle-ci, vous avez le même message que dans la parabole des invités, d'accord? Voilà. mais vous avez un message supplémentaire qui est absent dans la parabole des invités. Et c'est ce qui rend ce paragraphe que nous venons de lire plus difficile à lire et Pardon ? Quelqu'un me suggérait peut-être le mot que je cherche. Voilà. Alors, le royaume des cieux est semblable à un roi. Jusque-là, pas de surprise. L'autre parabole, il ne parle pas du royaume, il ne parle pas de roi. D'accord ? Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces. Pour son fils. Voilà. Ce sont les mots clés de la parabole et ce sont les mots qui expliquent tout ce qui est à la fois ce qui est merveilleux dans cette parabole, que quiconque, méchant ou bon au départ, peut être convive aux noces et le roi va entrer, s'enquérir de lui. Donc, ces mots pour son fils expliquent ce qui est merveilleux dans cette parabole. Et explique aussi ce qui est dur dans cette parabole. D'accord ? J'imagine que vous avez tous lu le psaume 2 et qui finit comme ça, « Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous périssiez dans votre méchanceté. » Dans votre méchanceté, c'est de mémoire, donc c'est peut-être pas ça la fin du verset. Et n'oublions jamais, quand quelque chose nous choque dans la Bible, que c'est Dieu qui le dit. Enfin, des fois, il y a des paroles choquantes prononcées par des méchants. Donc là, simplement, le Saint-Esprit l'a fait rapporter pour montrer comment se conduit l'homme. Mais ici, c'est Jésus qui parle. Donc, il est, si vous voulez, il n'est pas question de dire « Oh, ça me choque, j'accepte pas », parce que sinon, tu es en train de dire à Jésus « Je suis plus sage que toi ». Ou je suis meilleur que toi, j'ai plus d'amour pour les gens que toi. C'est capital. L'idée même que si Dieu est bon, il ne condamnerait pas, inclut, comporte la pensée que nous en savons plus sur l'amour que Dieu. On va lui donner des leçons d'amour bientôt. Donc il fit des noces pour son fils. Tout va tourner autour de ça. Il envoie ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces. Alors, il y a des invités évidents, comme quand, si vous voulez, pardon, la parabole, on peut la lire à deux, enfin on peut, c'est bien de la lire à deux niveaux, si vous voulez, prendre la logique interne d'une histoire où une famille prépare, et là en l'occurrence c'est un roi, prépare un mariage et donc comment ça se passe, etc. Et puis après au sens ce qu'elle signifie plus profondément, le roi, Dieu, son fils, le Seigneur, les invités évidents, donc là très probablement Israël, dans le contexte global de cette partie de Matthieu, Israël, et plus tard on verra des invités pas évidents, voilà, c'est nous. Enfin, moi, je suis un vrai païen, hein, en tant qu'Hongrois, descendant des Huns, de lointaine ascendance mongole, si vous voulez un païen, j'en suis un. Alors, pardon ? J'en étais un, corrige ma femme. Merci. Merci, sœur. Ma femme a été ma sœur avant d'être ma femme. Vous savez que normalement, c'est le cas de tout chrétien, puisqu'on est censé épouser quelqu'un de chrétien. Après, si aucun des deux n'était encore chrétien, là, ce n'est pas pareil. Ok, je reviens quand même au texte. Donc, ceux qui étaient les invités évidents. Et donc, voilà. Mais ils ne voulurent pas venir. Donc, de nouveau, voilà des morceaux de phrases qui amplifiés, exagérés, radicalisés, ont justifié un espèce de rejet, comme s'il était définitif de Israël dans la pensée de beaucoup de gens, un peu dans différents siècles. Hein. Mais bon, bien sûr, ce n'est pas ce que Jésus dit. Et il dit, j'ai été envoyé premièrement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Après, c'est vrai que la Bible parle d'un reste, etc. Bon, ils ne voulurent pas venir. Je veux souligner ce verbe, ils ne voulurent pas. C'est très important. C'est très important. Là, Dieu a créé l'homme avec une volonté. Normalement, ma volonté me sert à vouloir. D'accord ? Ok, hein ? Un couteau sert à couper, des pieds à marcher, les yeux à voir, la volonté sert à vouloir. Et normalement, ma volonté sert à vouloir ce que Dieu veut, ce que mon Créateur, mon Sauveur, donc mon Père, veut, dans cet ordre. Et là, ils ne voulurent pas. Et dans la parabole des mines, ou des talents, je ne sais plus maintenant, en tout cas celle de Luc, Luc 19, pareil, un roi s'en va pour recevoir, un homme de haute naissance s'en va recevoir la royauté, et pendant qu'il est loin, les habitants du lieu envoient une ambassade après lui pour lui faire dire, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Les mines, merci. Il envoie d'autres encore. J'ai préparé mon festin, mes brebis, mes bêtes grasses, etc. Venez, mais négligent. Et alors là, c'est dans le verset 5 et 6, c'est très résumé. Contrairement à l'autre parabole où c'est un peu plus détaillé, négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. C'est normal d'aller à son champ si on est agriculteur et que propriétaire terrien et qu'on a des champs. C'est normal d'aller à son commerce. Si c'est mon travail, il faut que je m'occupe de mon travail. Mais c'est juste préciser qu'ils négligent, c'est-à-dire qu'il y a une question de priorité. Ils ne voient pas, ils ne considèrent pas que le mariage du fils du roi mérite qu'on perde une demi-journée à la boutique, à peu près, hein, pour dire en langage d'aujourd'hui. Quelle importance a le roi pour eux ? Quelle aura, quelle valeur, quel prix a pour eux le fils du roi, le prince, le fils du roi, quel prix il a pour eux? Pas grand chose. Et il est là le problème. Le problème, c'est sans doute pas qu'ils considéraient que moi-même, être invité, bon, je m'en fiche. Voyez ? C'est probablement pas ça le problème. Puisque dès le début, le focus est mis, Jésus met le focus sur le royaume de Dieu. Il ressemble à quoi ? Il ressemble à ça. Un roi fait des noces pour son fils. Voilà. Et selon comment on se positionne par rapport au fils et son père, eh bien, on va répondre ou ne pas répondre. Vous savez, dans Jean 14, quand Jésus annonce qu'il enverra que le Père enverra en son nom le Consolateur, il dit beaucoup de choses, Jean 14, 15, 16, c'est là où il parle le plus du Saint-Esprit, beaucoup de choses dont en majorité le peuple charismatique ne fait pas grand cas, parce qu'on parle beaucoup du Saint-Esprit, mais très peu à partir de ce que Jésus en a dit. Et la première chose qu'il dit, c'est que le Saint-Esprit sera donné sur sa prière à lui. Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera. Voilà quelque chose dont on fait à peu près aucun cas. Et il dit une chose, c'est le verset 20 dans Jean 14. Il dit, en gros dans les trois chapitres, Jésus dit ce que le Saint-Esprit fera. D'accord ? Et voilà ce qu'il dit au verset 20. Il dit, en ce jour-là, quand l'Esprit sera venu, donc à partir de la Pentecôte. En ce jour-là, vous connaîtrez quoi? En premier, que moi, je suis en mon Père. Voilà. Voilà. La première chose que Jésus annonce que l'Esprit fera, ce n'est pas ce qui nous fera faire. Ce n'est pas en premier qu'on fera des miracles, qu'on sera rempli, que ceci, que cela, que sais-je. Là, il ne parle même pas de naître de nouveau, de naître de l'Esprit. Il en parle ailleurs. Hein. Mais voilà, la première chose, juste avant, il dit une pré-première chose, c'est « Vous me verrez ». En fait, au verset 19, « Vous me verrez parce que moi je vis ». Voilà, voilà ce que l'Esprit, si vous voulez, le Saint-Esprit est envoyé. Pourquoi? Pour que je voie Jésus. Pas premièrement pour que je fasse plus que, à mon avis, ne font les autres. Vous voyez? Pour que je voie Jésus. Et que je le voie comment? Seulement par rapport à moi? Qu'est-ce que moi je vais gagner à le connaître? Bien sûr, je vais énormément gagner à le connaître. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Que je voie Jésus premièrement par rapport à lui et Dieu. Alors, si quelqu'un avait besoin d'être décentré de sa personne, eh bien là, vous avez le médicament absolu. Quand l'Esprit sera venu, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père. Alors, du bon, d'accord, mais en quoi ça me concerne? Enfin, vous comprenez? Dis, bon, mais ça, c'est entre vous. C'est entre vous là-haut. Enfin, vous, si c'est pas, bien sûr, vous êtes au milieu de nous par votre esprit. Mais vous comprenez, on lit ça vite. Et je dois avouer que pendant des décennies, j'en ai fait quasiment aucun cas de ce verset-là, je veux dire. Même si j'ai toujours été, grâce à Dieu, très très sensible au fait que le cœur du dessein de Dieu, c'est son Fils. Vous connaîtrez que je suis en mon Père. Qu'est-ce que ça peut signifier? Une des premières choses dans le même évangile de Jean que Jésus répète trois fois, c'est la première fois, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Le Père aime le Fils. Voilà. 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 Le Père aime le Fils. Et puis dans le même chapitre 14, où on a lu au verset 20 là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Le verset 30 à peu près dit « J'ai parlé au milieu de vous ainsi pour que le monde sache quoi, qu'il est perdu et que je peux le sauver. » Oui, ça c'est, il le dit partout. Mais là, il ne dit pas ça. « Que le monde sache que j'aime le Père. » Voilà. Et le problème des invités dans cette parabole, il est là. Ils n'en ont rien à faire de l'amour du roi pour son fils. Ils n'ont rien à faire de la joie et de la fierté du fils d'être fils du roi. Ça n'a aucune importance pour eux. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Voyez ? Il est là le problème. Et pour certains, ce n'est pas seulement qu'ils n'en ont rien à faire ou peu à faire. Pour certains, c'est carrément la haine. Ce roi-là, ils ne peuvent pas le sentir, et son fils, s'il pouvait l'étrangler, lui arracher la tête comme un canari, il le ferait. Et qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Ils ne retournent pas à leur champ, à leur commerce, ils prennent les porteurs de l'invitation et ils les tuent. Et c'est pour ça que l'Église est toujours, en toute génération et aujourd'hui aussi, massivement persécutée dans le monde. Massivement. Donc vous comprenez bien, il est clair que Jésus ne raconte pas cette parabole simplement pour faire penser à une fête de mariage. Sinon, il n'aurait pas dit ils ont tué les porteurs de l'invitation. C'est quand même rare que quand tu envoies une invitation pour un mariage, les amis, ils tuent celui que tu as envoyé. Pauvre facteur. Jusqu'ici, il n'y avait que les chiens qui les mordaient. Maintenant, c'est carrément on les tue. Donc, c'est une parabole solennelle, beaucoup plus large et lourde que la parabole des invités. Alors, la parabole des invités est vitale quand même, parce que selon que tu réponds ou non, mais tu es sauvé ou non. Mais là, c'est une parabole lourde. Et elle dit, si vous voulez, quelque part, c'est une parabole sur le dessein de Dieu et l'humanité face au dessein de Dieu. Vous voyez ? Elle ne commence pas comme l'autre. Désolé, je le répète, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc, verset 8. Un dernier mot, pardon. Vous comprenez avec moi, avec tout ce qu'on vient de dire là, que c'est pour le fils. Vous comprenez que si un invité s'était mis en tête, « Ah, mais les noces ont été organisées rien que pour moi, pour que j'ai des beaux habits et que je sois trop content et que je mange des bonnes choses. » Bon, il serait quand même loin du sens. D'accord. Voilà. Si on lit Jean 3,16 avec cette pensée, vous savez où est le drame ? Je fais de moi-même le but du dessein de Dieu et je réduis Jésus au moyen du dessein. Jésus n'est que le moyen pour que Dieu puisse me trouver, parce que sans moi au ciel, il n'était pas bien. Et il n'en pouvait plus, tellement on lui manquait. Et Jésus n'est que le... Alors là, je pousse le bouchon. Mais c'est une approche qui est très répandue, pas aussi radicale que je viens de le formuler. Et vous savez pourquoi elle se répand ? Enfin, une des choses qui permet qu'elle se répande, c'est qu'il y a un des attributs de Dieu qui s'est complètement oublié dans le monde chrétien et dont on ne parle pas, et je vais la dire, je pense très très peu auront déjà entendu le mot. Les attributs les plus connus, Bon, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est saint. Voilà, ça c'est lui. Mais il est précisé que la Bible montre clairement qu'il est omniscient, il sait tout, omniprésent, il est partout, omnipotent, il peut tout, il fait tout, il a toute puissance. D'accord. Bon, il y en a une qu'on appelle l'acéité de Dieu. On dit l'omnipotence, voilà, il y a l'acéité. Et ça vient à travers le latin, acé, ça veut dire... à soi, de soi, de soi-même. La séité de Dieu, ça veut dire qu'il est complet en soi. Il se suffit à lui-même. Voilà. Et c'est quelque chose dont petit à petit on est en train de s'éloigner, notre génération. On pense l'amour de Dieu comme si sans nous, ça ne le faisait pas. La Bible ne dit nulle part que Dieu sauve parce qu'il lui manque quelque chose. Au contraire, la Bible dit clairement qu'il ne lui manque rien. Il ne lui manque rien. Ce n'est pas qu'il lui manquait du monde à aimer. Il a des myriades d'anges. Enfin, vous comprenez. C'est l'amour. C'est une mesure d'amour. Alors, vous allez dire, mais pourquoi il nous crée ? Par amour, mais pas par manque. Vous comprenez ? Quand on se marie, par exemple, on est amoureux fou du beau jeune homme, la belle jeune fille, et on veut l'épouser, c'est bien sûr moi j'ai épousé Anne-Marie uniquement pour elle, pour qu'elle soit heureuse, qu'elle ait tout. Ce n'était pas du tout pour mon bonheur à moi. Hein ? Bon, non, parce que moi, j'ai pas dans mes attributs, il n'y a pas l'acéité. Voilà, moi je ne me suffis pas à moi-même, d'ailleurs Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc nous on n'est pas complet dès le départ. Ça n'a rien à voir avec le péché. Si j'étais exempt de tout péché, c'est pareil, je ne suis pas complet. D'accord ? Voilà. Voilà, donc là j'insiste beaucoup, hein, mais voilà, pour son fils. Il fit des noces pour son fils. Et vous savez comment Jésus parle de nous dans sa prière dans Jean 17 ? Père, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Alors, Dieu me sauve pour que je ne sois pas perdu et que je sois heureux et béni et tout. Oui. Mais ce n'est pas la plus grande des raisons. Il y a une raison au-dessus de celle-là. C'est, il me sauve pour me donner à son fils. Il me sauve pour me donner à son fils. Et c'est pour ça que, dans Éphésiens, mais dans toutes les épîtres, partout, mais surtout Éphésiens, c'est impressionnant, plus de 30 fois, en lui. Alors, en lui, nous sommes élus. Ça veut dire quoi? Mais sans lui, tu n'es pas élu. En lui, nous sommes pardonnés. Tu es pardonné en lui, mais sans lui, non. En lui, il nous a prédestinés. Sans lui, tu n'es pas prédestiné. Prédestiné à entrer dans la salle des noces, etc., etc. Alors, vous aurez compris, je ne dis pas ça pour que subitement on se mette tous à se dévaloriser soi-même et qu'on se dise les uns aux autres de bon matin, au téléphone peut-être même, avant d'arriver à la réunion, est-ce que tu sais que tu n'es pas grand-chose, hein, tu n'as aucune valeur, hein, il n'y a que Jésus qui a de la valeur, hein, toi tu ne vaux rien du tout. Vous aurez compris que ce n'est pas l'idée. Voilà. Cependant, la valeur de Jésus et la nôtre ne sont pas au même plan. Alors, verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Alors là, c'est pareil, si vous voulez isoler ce verset du reste de la Bible, vous pouvez dire qu'il n'y a pas besoin de se repentir et d'être purifié pour être sauvé. Il suffit de rentrer, puis ça va le faire. Bon, ben, voilà, c'est l'Écriture qui explique l'Écriture. Que signifie ici méchants et bons? Ben, méchants et bons avant le passage. Et en quoi consiste le passage? On va le voir. Et la salle des noces fut remplie de convives. Alors là, il y a la condition, si vous voulez, d'entrée, elle n'est pas précisée là, mais elle va apparaître après. Parce que ce que Jésus nous enseigne dans cette parabole aussi, c'est pour les gens méchants et bons, enfin les premiers invités, évidents, puis les autres méchants et bons, la première chose c'est de répondre à un appel. Témoigner de Jésus, c'est transmettre un appel. C'est pas dire aux gens, tu sais, t'es formidable, Dieu t'aime, tout ça, tu es super, tu es beau, en plus tu vas être guéri, et puis au revoir. Là, on n'a pas dit l'évangile. Hein. On n'a pas dit l'évangile. L'évangile, c'est transmettre un appel. Alors, peut-être que le premier jour, il n'y a pas plus à dire, et on reverra la personne, etc. Mais il faut savoir où on en est dans l'obéissance au mandat. Alors, c'est transmettre un appel. Mais c'est aussi, et donc pour eux, répondre à un appel. Mais il y a aussi se plier à une condition. Voilà. Pour les gens méchants et bons, il s'agit de répondre à un appel et ou en se pliant à une condition. Et de ce point de vue-là, quand on répète trop que l'amour de Dieu est inconditionnel, on va plus loin que l'Écriture. Mais bon, si vous voulez, je vous expliquerai ça une autre fois. Il n'est pas inconditionnel, il est premier. Et il produit le nôtre. Mais bon, passons. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, le Père l'aimera. Or, il l'a déjà aimé. Mais pour aller plus loin, il y a une condition. Donc, et de même pour les gens qui ne sont pas en Christ, il y a une condition. Et donc, je continue à lire. Le roi entra pour voir les convives et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors, celui-là, c'est un original. Et en plus, il a du talent, il est doué, hein, il est très très fort. Alors, il est original parce que, en vérité, il fait partie de ceux qui pensent nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Et comme il est imbu de lui-même, très habile, très fort, très doué, tous ses copains l'admirent, c'est impressionnant. Hein. Et lui, il dit, moi, je vais y aller, et c'est moi qui y vais. Et la condition d'entrée, c'est, tu enlèves ce qui est à toi, tu enlèves ce qui est à toi, et tu prends ce qui est au fils. On met un habit de noces pour honorer le fils. Moi, honorer le fils? Ah non, 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 pas question. Jésus, seul sauveur? Non. L'amour, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, oui. Hors de Jésus, point de salut, mais ça va bien la tête? Mais quelle intolérance, quelle étroitesse d'esprit. Vous comprenez? Il est là-dedans, notre bonhomme. Il est moderne, en fait. Il est très moderne. il n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors pourquoi je dis tout le monde l'admire, il est beau, il est fort? Parce qu'il faut le faire quand même. C'était bien organisé. Par où il est passé? Peut-être il a fait comme les quatre qui ont ouvert le toit, vous savez, pour faire descendre leur ami, mais eux, c'était pour la bonne cause. Lui, il a fait, je ne sais pas comment... Bon, vous comprenez, c'est une parabole. Et il suffit que le roi lui dise... Alors, ses compagnons, hein, littéralement, ce n'est pas mon ami, c'est-à-dire, ce n'est pas le même mot que quand Jésus dit, je vous appelle mes amis. Voilà. Il ne faut pas croire que Jésus ne fait pas de différence quand il voit les gens. Il voit ce qu'il voit. Hein. Compagnon, c'est-à-dire c'est un mot quand même bienveillant. Vous comprenez? Il ne lui a pas dit « sale orgueilleux, espèce de hein, graine de voyou, gibier de potence ». Non, il dit tranquillement « compagnon, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et là, mais on le sait hein, quand Dieu parle. Mais Paul il est tombé de cheval, lui. Vous comprenez, hein? Là, il est percé à jour. Il est percé à jour. Et faute de quoi? Faute d'avoir été précédemment transpercé au cœur par la gloire du roi et du fils. C'est l'expression que Luc emploie dans Acte 2. Juste après la Pentecôte, et Pierre prêche, et c'est marqué, après avoir entendu cela, alors selon les versions en français, on a quelque chose comme, ils eurent le cœur vivement touché, ou ils furent frappés de, voilà. Et littéralement c'est, ils furent transpercés au cœur. Waouh. Je disais tout à l'heure que les non-croyants doivent entendre un appel. Il est bien évident que si ce n'est pas Jésus qu'on décrit, Jésus crucifié, Jésus, comme on l'a chanté, Jésus ressuscité, Jésus de grâce, Jésus qui jugera, ça fait partie du message. Si la perdition n'est pas mentionnée, Jean 3,16 mentionne la perdition. Dieu a tant aimé afin qu'il ne périsse pas. Comment voulez-vous que les gens soient transpercés au cœur? Ce n'est pas l'émotion qu'on veut susciter chez les gens. La preuve absolue que l'Esprit a agi et qu'on a parlé comme il faut, ce n'est pas qu'ils sont émus aux larmes. Alors ça peut être un signe très encourageant, mais la preuve absolue, c'est la suite. Quelque chose est venu de Dieu, ils ont été transpercés au cœur. Et alors, c'est eux-mêmes qui demandent à Pierre et aux autres, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On a rejeté le Messie, qu'est-ce qu'on va faire? C'est même pas Pierre qui leur court après en disant, vous savez, vous pouvez être sauvés quand même, mais repentez-vous. C'est eux qui demandent, transpercés au cœur. Et donc cet homme-là, on revient à la parabole, cet homme-là, il est percé à jour, faute d'avoir été transpercé au cœur. Et vous savez, souvent, la différence entre une vie chrétienne où, bien sûr, on a tous des faux pas, des chutes, des faiblesses, des découragements, tout ce qu'on veut, moi le premier. Mais globalement, une vie chrétienne où on avance, où on n'est pas sans cesse en train de contester Dieu, de contester ce que dit l'Écriture sur tel ou tel point, de contester que sais-je. Une vie où on avance, où on porte du fruit, et puis une vie où justement ça rame comme ça, souvent la différence c'est comment je me suis converti. Est-ce que j'ai été transpercé au cœur ou est-ce que j'ai juste entendu que là c'est super et je vais avoir une belle vie? Vous voyez? Souvent il ne faut pas chercher la différence. Autrement dit, je me suis converti en me repentissant à moi. Voilà, ce n'était pas une capitulation. Je n'ai pas prosterné ma vie devant le roi. Voilà. Et toutes les difficultés qui suivent résultent de là. Je ne parle pas des difficultés qu'on rencontre, que je suis au chômage, que mon fils est malade, que c'est pas ça que je veux dire. Hein. Je parle de ma difficulté à faire confiance. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles le peuple de Dieu a à ce point besoin de méthodes de thérapie, de secrets, de comment en 5 points, devenez sûr et ferme en 5 points, devenez vainqueur en 10 points, etc. Je dis ça sans mépris, sans mépris. Il y a dans les points pas mal de choses justes. Mais pourquoi on a tout le temps besoin, juste pour être sûr et en paix avec Dieu, pourquoi il y a besoin de mettre à ce point le focus sur notre identité ? Quelqu'un qui a prosterné sa vie devant Dieu, il n'a aucun problème d'identité devant Dieu. Il sait où il habite, au pied de Dieu, terminé. Vous comprenez ? Voilà. Alors, pour autant, je me réjouis que là où l'identité n'est pas clairement vue, appréciée, certains insistent pour le dire. Vous comprenez ? Il est rentré, notre homme là, il a réussi à passer, mais il ne voulait pas de l'habit de noces. Non. Et pourquoi ? Alors, on se plie. Une fois, j'étais invité à un... C'était, bon, peu importe. Il y a une très grande entreprise qui avait sponsorisé plusieurs de mes peintures et une expo. Et ben, les mêmes qui ont sponsorisé le catalogue, les affiches de ça, là. Et il m'avait invité à une grande... je ne sais plus ce que c'était, un événement, mais alors vraiment avec des gens vraiment très importants. Très, très importants. Hein. Et on m'avait dit à l'avance qu'il faudrait que j'ai un smoking. Mon pauvre. Et moi, bon, là, j'avais 30 et quelques, hein, la trentaine, jeune artiste. Moi, un smoking. Mon frère. Et heureusement, il y avait le galeriste avec qui je travaillais, qui m'a dit, mais attends, mais Jean-Noël, non, non, là tu peux être le meilleur peintre du monde, c'est une soirée smoking, tu rentreras pas sans smoking. Bon, ouf, je m'en suis sorti, la soirée était annulée. Mais c'est vrai, il devait m'amener aux États-Unis et tout, c'était un foin. Bon, passons. Alors, voilà, on ne rentre pas sans. Et pourquoi on ne rentre pas sans ? La condition à laquelle il faut se plier. La condition à laquelle il faut se plier. Est-ce que c'est juste pour le décor ? Pour que tout le monde soit habillé pareil ? Vous comprenez ? La condition, elle est glorieuse. C'est tout invité, méchant ou bon, il est changé, et ce qui les réunit, ceux qui restent, si vous voulez, ceux qui ne font pas demi-tour, eh bien, ce sont ceux qui, à partir de maintenant, sont heureux d'honorer le Fils. Il dit, ah, comment on honore le Fils ? Il faut mettre ça ? Je mets ça. Et au long du chemin, ensuite, nous comprenons que finalement, on avait été créé pour ça. Créé pour ça, prédestiné en lui. Prédestiné à être à lui. Donc finalement, il n'y a pas plus glorieux comme condition. Et celui qui refuse la condition, il refuse le vrai sens de son existence. D'accord ? Donc finalement, on pourrait dire, mais c'est mesquin là, il faudrait savoir, tu m'invites ou tu ne m'invites pas ? C'est un morceau de tissu qui compte ou c'est ma personne ? Et alors pourquoi lui c'est un invité important et moi je ne suis pas important ? Enfin, vous comprenez ? Ce n'est pas une condition mesquine, c'est une condition généreuse et glorieuse. N'importe qui, le long des haies ou qui traîne au carrefour, pourra devenir un bien-aimé du fils du roi. La condition est glorieuse. Voilà. Et donc le roi dit au serviteur, ben, attachez-le et jetez-le dehors. Et vous savez que Jésus le dit beaucoup, ça. Hein. De différentes manières, Jésus parle beaucoup de la perdition. Ça continue comme ça, il va être midi. Hein. Probablement, ça suffit. Probablement, ça suffit. L'évangile est une question de vie ou de mort. Je ne veux pas dire que... Il y a d'autres générations où on le disait davantage. Mais souvent c'était accompagné d'un accent sur l'émotion, le sentimentalisme ou la peur. Hein, voilà. Je ne veux pas jouer sur ces fibres-là, juste dire la vérité. Jésus parle de l'évangile comme étant vie éternelle ou perdition. Amen. En soi-même, l'invitation n'est pas sélective, c'est l'entrée dans la salle des noces qui est sélective. L'invitation n'est pas sélective, quiconque est invité. Et selon le cœur qu'il aura, il rentrera ou pas. Notre Seigneur, Dieu de gloire, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous inclinons, comme nous l'avons dit dans les louanges, dans les chants, combien nous sommes reconnaissants de ce que tu sois le Dieu sauveur. Et Seigneur Jésus, combien nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as amenés au Père. Et tu as dit, mon Dieu est votre Dieu. Mon Père est votre Père. Seigneur, je te remercie si vous voulez le dire avec « je », pour chacun pour soi-même aussi, faites-le, ou peu importe. Je te remercie de me rendre sensible à l'incomparable lien qu'il y a entre toi et le Père.